Dans une société dans laquelle de plus en plus de gens fragilisés par des contextes socio-économiques sont rendus seuls responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent, il n'est pas étonnant que des dispositifs d'aide sociale comme le RMI ne soient plus perçus comme un droit, mais comme une faveur, et que les personnes qui en usent soient de plus en plus montrées comme des profiteurs et, sous-entendu, bientôt, des parasites de la société. Et c'est souvent les plus fragiles parmi ces personnes, fragiles parce qu'isolées, peu organisées et peu informées, qui font en premier les frais de cette idéologie mesquine. Ainsi en va-t-il depuis plusieurs mois pour nombre d'artistes au RMI, en particulier des plasticiens. Une question que la grenouille souhaitait aborder lors de sa thématique Hors les murs en janvier dernier, mais le temps ayant manqué, ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons vous proposer d'écouter quelques témoignages sur ce sujet. Vous entendrez ainsi Philippe Guidot et Pierre-Gilles Chaussonnet, deux artistes confrontés à la suspension de leur allocation et contrat d'insertion. Vous entendrez également Odile Bouvier, Dadaï 13, Pôle Culture, un service conventionné par le Conseil Général chargé du suivi des artistes en contrat d'insertion. Mais pour commencer, c'est le témoignage de Christelle Notelet, membre du SNAP, Syndicat National des Artistes Plasticiens, que nous vous proposons d'écouter. Elle a accompagné à quelques reprises des artistes aux commissions locales d'insertion.
On les a convoqués pour leur faire signer le contrat d'insertion, donc jusque-là tout va bien, tout est normal. Pour certains, c'était le renouvellement du contrat d'insertion et on leur expliquait que leur pratique ne représentant pas assez de revenus financiers, une autonomie financière suffisante, ils devaient trouver une autre voie de sortie pour le RMI, c'est-à-dire d'aller travailler comme caissière. Aux femmes, on leur conseillait d'aller se marier et faire des enfants, texto. Et donc on leur demandait d'aller faire caissière, de laisser tomber leur formation Bac plus 5 pour certaines ou certains, et donc de devenir rentable et de sortir du dispositif. Et ça a été assez violent. C'est des personnes, en général, quand on est au RMI, on n'est pas franchement très costaud. On est en précarité déjà financièrement et socialement, puisqu'il faut faire des demandes de CMU, etc. Et c'est des personnes, en général, qui se battent au jour le jour, qui construisent, qui travaillent à leur pratique de plasticien. Et ils se sont retrouvés face à des travailleurs sociaux qui ne connaissent absolument pas la pratique, qui ne sont pas si curieux que ça de cette pratique. Et qui leur proposait donc de partir, de sortir du RMI et d'arrêter d'essayer d'être des artistes aux frais de l'État. En gros, c'est ce qu'on entendait.
Donc, comment vous avez réagi et comment les artistes ont réagi ?
La première chose qu'on peut faire, c'est défendre notre profession. Première chose, c'est un statut qui n'est pas un véritable statut, artiste plasticien, donc c'est assez compliqué. Mais on a quand même une existence économique, on a quand même une existence dans notre pratique et il y a certaines contraintes qui sont dues à notre pratique qu'on ne peut pas passer autour et alentour. Et donc la première chose, ça a été de faire de l'information déjà aux travailleurs sociaux qui ne connaissent pas forcément les dossiers ETI, travailleurs indépendants, ça c'est pour la CAF, qui ne connaissent pas forcément les contraintes par exemple d'un voyage. Parce qu'on demande aux RMistes d'envoyer tous les 3 mois une déclaration avec les revenus, etc. Donc, si vous répondez pas à temps au courrier parce que vous êtes en résidence à l'étranger, ça va poser d'énormes problèmes. On va vous suspendre votre RMI. Et si on vous reçoit dans une commission pour ce fameux contrat d'insertion et que vous dites que vous êtes allé à Tokyo, on va vous sucrer le RMI sous prétexte que un RMiste ne peut pas se permettre d'aller à Tokyo, sans savoir, par exemple, qu'on peut avoir une résidence, tout frais payés, seulement on touche rien, on ne touche pas d'argent. Ou alors c'est des frais de production, donc tout ce qu'on touche, c'est reversé dans la production. Donc il y a zéro argent pour la locataire du RMI en particulier. Donc C'est difficile de toute façon pour le plasticien de fonctionner, mais il y a forcément des périodes quand on commence où des accidents dans la vie, ça arrive. Il y a des périodes comme ça où justement il n'y a pas de rentrée suffisante, quoi. Donc nous, ça a été surtout de l'information, donner l'information aux allocataires parce qu'ils ont le droit de se défendre et ils ne sont pas forcément au courant de comment faire. Ils comprennent déjà pas en général pourquoi on leur suspend le RMI. On comprend pas pourquoi. Ils comprennent pas pourquoi ils sont convoqués. Donc, parce qu'en général, ils sont, même s'ils sont en difficulté, ces personnes-là sont quand même socialisées, travaillent, comme je dis. Donc, ça, c'était surtout sur ce point-là qu'on se battait, de dire on travaille, on est en difficulté. Il y a d'autres travailleurs indépendants, libéraux, qui sont en grande difficulté et qui ont donc droit au RMI, parce que je rappelle que le RMI, c'est un droit. Donc, ça, on essaye de nous expliquer qu'il faut sortir aussi du RMI au bout d'une certaine période. Or, dans la loi, je rappelle qu'il n'y a absolument aucun détail, il n'y a pas de limitation de temps dans le dispositif RMI. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un allocataire, voilà, ça fait 5 ans que vous êtes au RMI, maintenant, il faut sortir du dispositif. Parce que je pense que l'allocataire est le premier à le vouloir. Voilà, c'était surtout sur ce mode-là qu'on se défendait, qu'on défendait les allocataires pour qu'ils puissent garder leur revenu minimum d'insertion et voilà, et puis pouvoir avoir assez de force aussi pour défendre son statut, quoi, défendre sa profession, parce que c'est très difficile et par moment il y a des plasticiens qui arrivaient à culpabiliser d'avoir une pratique, quoi. C'était assez dangereux, quoi, quand même.
Est-ce que vos arguments ont été entendus par les services insertion du Conseil général ?
Oui, ils ont bien été obligés, on les a mis très fort. Mais en fait, surtout, ils nous renvoient à quelque chose de très... bancaire ou comptable en face, quoi. On a un gros budget à gérer, il y a trop de RMistes, donc il faut sortir du dispositif, voilà. C'est un peu après, sur tous les aspects techniques, ça a été très 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 tendu, puisque ils sont pas forcément ils sont plutôt dans leur tort qu'autre chose. Donc, c'est vrai que techniquement, nous, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir des réunions avec la CAF, etc., pour clarifier la situation, qu'il y ait des notes de service qui soient faites. C'est pas des choses très compliquées, c'est des choses très, très concrètes qu'on demandait et très simples. Et en fait, le flou artistique, si j'ose dire, a été entretenu et il n'y avait absolument pas de... Il n'y a eu absolument aucune suite.
Flou artistique, ça veut dire que ça devient un peu pervers ?
Complètement pervers et malsain, parce que on se retrouve avec des travailleurs sociaux qui sont mal informés, avec des allocataires qui sont mal informés, avec des bugs au niveau de la CAF et avec une incompréhension totale au niveau du CG. Donc on est un peu dans l'impasse et c'est vrai que pour les allocataires, c'est pas évident de trouver l'interlocuteur qui va comprendre de quoi on leur parle et qui vont arriver à réagir de façon correcte. Parce que j'ai vu le cas d'un travailleur social qui était complètement paniqué parce que le contrat d'insertion était à journée et il ne savait absolument pas comment reformuler son contrat d'insertion. Mais c'est quelqu'un qui est payé pour ça, d'accord ? Pendant ce temps, l'allocataire touchait 42 euros d'allocation par mois puisqu'ils étaient en train de recalculer, d'étudier le dossier. Donc, ils devaient survivre avec 40 euros par mois. On dégoûte les gens. En fait, le côté pervers, c'est qu'on dégoûte les gens, on leur sucre, on leur demande 15 000 papiers. Là, par exemple, on va leur demander le 15 janvier leur bilan comptable, alors qu'aucune entreprise ne fournit jamais aucun bilan comptable au 15 janvier, quoi. Ils se placent systématiquement au-dessus de l'administration fiscale, là, la CAF, ce qui est quelque chose de complètement aberrant. Et donc, on met la pression, on va demander 15 000 papiers, on va prendre des rendez-vous, on va demander de faire un contrat d'insertion. Là, comme on les surveille beaucoup plus autour du contrôle, cette histoire de contrôle, ça veut dire que tous les 3 mois, on peut remettre votre RMI en question. Donc, ça veut dire qu'on va vous convoquer tous les 3 mois, on va vous suspendre, vous comprenez pas, donc vous laissez tomber, vous avez un petit boulot qui commence, vous vous dites, bon, bah, finalement, je vais me débrouiller toute seule, quoi. Il y en a beaucoup qui tombent là-dedans, quoi, qui laissent tomber. Alors, quand ils laissent tomber parce que ils développent d'un autre côté effectivement une activité et que ça leur ramène de l'argent et les moyens de survivre, bah, très bien. Mais il y en a beaucoup, bah, ils comptent sur les parents, sur les amis, sur l'entourage, quoi. C'est comme tous les allocataires RMI en ce moment. Hein, c'est pas les plasticiens en particulier, mais c'est une attitude générale, quoi. C'est-à-dire qu'on veut faire des économies sur les plus précaires, quoi. Il y a des choses qui ont été dites du genre « vous êtes artiste » entre guillemets. Donc on a envie de répondre qu'en face, on a des travailleurs sociaux entre guillemets. Il y a des petits pics comme ça qui sont très difficiles. Et puis le ton général, c'est quand même maintenant, va falloir aller bosser, quoi. Donc c'est très désagréable quand vous ramenez votre bouc, tout votre boulot sous le bras, que personne ne le regarde parce qu'on n'est pas là pour ça et qu'on vous explique que ouais, faut aller faire caissière, quoi. C'est quand même vraiment terrible. C'est-à-dire qu'on nie votre existence professionnelle, quoi.
Est-ce qu'on a une idée des chiffres d'artistes comme ça qui sont allocataires du revenu minimum d'insertion et qui seraient fait sortir du dispositif?
Alors on a très très peu de chiffres puisque la population est mal estimée par le Conseil général. En fait, ils savent pas trop de qui ils parlent quand ils parlent des artistes. Il y a les intermittents du spectacle qui étaient à un certain, ils étaient aux ACEDIC et ils y sont plus vu les recalculs. Il y a toutes les personnes qui sont plasticiennes mais qui sont pas déclarées à la Maison des artistes, donc qui sont pas forcément repérables en tant que telles. Et on sait qu'il y a 2 ans de ça, en tout cas, il y avait 1300 travailleurs indépendants au RMI, 1300 personnes, donc des boulangers, des artisans, tous les libéraux. Hein. Et dedans, soi-disant, il y avait 800 personnes qui étaient des artistes. Donc sur 1300 travailleurs indépendants, il y aurait 800 artistes. Mais ce chiffre-là, à chaque réunion qu'on a eue avec le Conseil général, il a été revu jusqu'à une centaine de personnes, a priori.
Est-ce que les services culturels du Conseil général ou d'autres collectivités publiques aident un peu ces artistes plasticiens qui se retrouvent dans ces difficultés-là à faire face?
Ils s'en inquiètent, ils sont conscients du problème. Ils essayent de faire des choses constructives, on va dire, mais au niveau de leur budget, nous, ce qu'on leur demande, déjà, la première chose, c'est de respecter un décret qui date de 57, quand même, c'est-à-dire le droit de monstration, c'est-à-dire quand un artiste fait une exposition, ben on va payer les affiches, on va payer les petits fours, on va payer tout le monde, mais pas l'artiste, parce que l'artiste, il est là pour accrocher les Mickey et voilà. Donc, d'amour et d'eau fraîche, l'artiste, il se débrouille tout seul, mais le Conseil général fait des expositions, il produit des expositions et ne paye pas les artistes en droit de présentation. Donc, déjà à la base, on demande au Conseil général de respecter la loi, à la base. Donc là, déjà, par rapport au RMI, ça pose problème, mais par rapport à ces finances-là, ça pose encore plus de problèmes, puisque toujours, on retombe sur « on n'a pas de budget ». Donc c'est un peu difficile, quoi. Mais au niveau culturel, ils sont conscients, ils ont des budgets d'animation. Alors ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on demande aux RMistes de faire du lien social, c'est-à-dire que on demande aux salles profiteurs plasticiens RMistes d'aller faire de l'animation lien social dans des cités, etc. Donc c'est assez rigolo si on prend ça comme ça, quoi. Enfin, vaut mieux en rire, disons.
C'était Christelle Notelier du Snap PACA. Philippe Guido, lui, est artiste. Depuis de nombreuses années, à Marseille, son travail a souvent été montré dans des contextes divers, notamment dans le théâtre de rue. Il est également responsable de la galerie Ars Longa, une galerie qu'il a ouverte il y a 3 mois au Puce des Arnavaux. Et il est en colère, comme l'indique cette lettre, qu'il a adressée à Jean-Noël Guérini, président du Conseil Général, et qu'il nous a lu.
Monsieur Jean-Noël Guérini, président du Conseil Général, Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just, 1304 Marseille. Monsieur le Président, artiste plasticien, allocataire du revenu minimum d'insertion, j'ai la désagréable sensation d'être le jouet de votre administration. Souhaitez-vous l'éradication des artistes se trouvant au RMI pour le bien de vos chiffres préélectoraux, faute de budget et de compétences de vos services auxquels incombe la gestion de ce dossier? J'ai besoin de l'aide de la majorité que j'ai élue pour sauver l'art et la culture de la paupérisation de leurs acteurs. En guise d'aide, je subis, hélas, l'acharnement de vos services qui désirent m'insérer. Ah ah ah, Triste constat, que de promesses, que de déceptions, que de doutes. Vous trouverez ci-joint mon CV et mes activités actuelles. J'ose réclamer, à l'instar d'autres, l'exception culturelle pour les artistes au RMI dans les quartiers difficiles, avec une allocation spécifique due à leur état de production, ne leur permettant que d'avoir un parcours atypique. Où trouver l'argent ? Quelques propositions sont évoquées dans mon dossier « Le Salon des Bannis », que je dois d'ailleurs développer dans le cadre de mon contrat d'insertion, avec le soutien de Pôle Culture 13, à Daï. Or, depuis le 24 juillet, je me trouve sans nouvelles du Pôle Culture, ni réponse à mes appels téléphoniques, le néant. En revanche, le pôle d'insertion de la Viste, l'Acadel, eux, ne m'oublient pas et désirent promptement un document Pôle Culture, sous peine du non-renouvellement de mon contrat d'insertion, d'où suivra ma radiation du RMI. Bravo pour vos chiffres, merci pour moi. Je me suis donc rendu au Pôle Culture. Manque de chance, en travaux, aucune indication. Merci pour les pauvres, la marche et les démarches. Que de temps perdu à l'atelier, merci pour ma production et mon insertion. Que de désarroi et de perte de santé mentale dans le sentiment de culpabilité dans lequel vous me plongez. Les problèmes liés à mes activités et à mon logement ne font que commencer. Étant moi-même un artiste résident aux anciens abattoirs de la ville de Marseille, devant déménager avec une échéance de 1 an, soit début 2008, je vous remets donc mon projet Agora Park dans l'espoir de pouvoir le développer dans l'année. Ce projet artistique, citoyen, éducatif et écologique sauverait quelques artistes de la destruction de leur âme et de leur production et donnerait au département une nouvelle dimension dans les ambitions de Marseille, ville européenne de la culture 2013. J'ose espérer que votre famille politique, que j'ai élue si souvent et dans laquelle j'ai placé si souvent tant d'espoir, retrouvera dans les valeurs que je défends ici les valeurs qui sont aussi les miennes. Mais quel pont existe-t-il aujourd'hui entre vos services sociaux et vos services culturels ? Qui de vos services est passé dans mon atelier ? Qui contacter pour m'aider à résoudre mes problèmes non pas d'insertion, mais de constitution de dossiers administratifs ? Il m'est difficile de sortir un salaire pour me doter d'un administrateur me montant mes dossiers. Je vous demande de créer une tutelle administrative de projets d'artistes pour les aider à démarrer avec un suivi de projet pour 3 ans. Je vous demande de créer une banque de données des mécènes et sponsors du département pour les rendre accessibles aux porteurs de projets. Je vous demande d'ouvrir et de développer les arts visuels en offrant la logistique et les locaux du département, par exemple lieu des archives départementales, en organisant des manifestations culturelles plus fréquentes avec les acteurs locaux pour une plus grande communication sur leurs œuvres et leur travail, ce que je fais à petite échelle au marché aux puces de Marseille à travers la galerie Ars Longa et l'association PAC. Mais qui de vos services est passé voir le travail des artistes présentés ? Peut-être juge-t-il par avance du peu de qualité des œuvres présentées. 4 jours d'atelier et 3 jours de galerie par semaine, comme seule alternative, votre incapacité à gérer les artistes de votre département en les plongeant dans la plus grande détresse des affres du RMI. Quel mépris pour les acteurs culturels. Venez, venez si vous osez, venez vous frotter. Frottez-vous les yeux, frottez si vous osez, frottez-vous à la matière, frottez-vous à l'art, frottez-vous à la volonté de l'artiste, frottez-vous, intoxiquez-vous à l'art, intoxiquez-vous, il faut toujours s'intoxiquer. Venez, venez si vous osez, venez vous intoxiquer. Ars longa vita brevis, l'art est long, la vie est courte. L'histoire vous donnera tort d'avoir abandonné ces artistes, de les avoir traités comme des délinquants qui pointent au commissariat ou des hooligans interdits de stade. Prévoyez-vous peut-être des camps de redressement pour les artistes ? Monsieur le Président, mon seul crime n'est de ne pas être fortuné et de n'avoir comme bouclier que mes tripes à exposer. Une société qui met à mal ses artistes est une civilisation qui est condamnée à mourir. Je vous demande de vous en souvenir. Le caractère recommandé de ce courrier n'a pour but que de m'assurer de sa bonne réception par vos soins. Je vous prie, monsieur, de croire à l'expression de ma parfaite considération. Philippe Guidot, artiste, malheureusement au RMI.
Philippe Guidot est en compagnie de l'artiste Pierre-Gilles Chaussonnet pour répondre à quelques questions.
Eh bien, donc, j'attends toujours la réponse et je serais bien content de savoir ce que monsieur le président Guérini en pense, étant donné que j'ai l'impression d'être méprisé vraiment et de pas pouvoir m'en sortir. J'ai encore reçu un courrier me demandant de m'insérer, que mon contrat d'insertion ne convenait pas. Enfin, toujours est-il que le Salon des Bannis existera malgré un contrat d'insertion inexistant. Le 23, 24, 25 mars, au marché aux puces, et avec pour l'instant une trentaine d'artistes déjà inscrits sur les listes pour ce salon des bannis.
Le terme d'insertion dans la lettre te fait marrer ?
Oui, ça me fait rire parce que l'insertion, moi je pense pas être à insérer, je pense être totalement inséré dans la vie, dans mon quartier, au marché aux puces, chez les commerçants. J'ai une association qui me sert à payer bon an mal an les lieux que j'utilise, qui me sert à payer mon matériel, qui me sert à organiser mes expos, à payer mes vernissages, et mes œuvres servent à payer ça en fait. Voilà, donc en fait, c'est un peu compliqué, mais je pense pas être à insérer, je pense que je suis totalement inséré, je pense que je fais beaucoup de choses et que je suis pas, comme il a pu le dire, un des éléments perturbants comme les gitans ou les artistes ou les étudiants du 8e, voilà.
Alors, peut-être Pierre-Gilles Chaussonnet, sur c'est, les éléments perturbants, ça date d'un article de journal de la Provence, assez récent.
Oui, en Provence du 13 janvier, où M. Guérigny explique assez clairement qu'en fait, le problème du RMI à Marseille, ce sont, et il met dans le même sac, les étudiants des quartiers riches, donc le 8e, les gitans, les artistes, la preuve, ils ne sont pas inscrits à la NPE. Donc derrière, ils ne sont pas inscrits à la NPE, ça résume bien une espèce de politique sociale, enfin une vision de la politique sociale dans les Bouches-du-Rhône, à savoir qu'il faut faire du chiffre, il faut virer les gens du RMI pour faire du chiffre, à but électoral, c'est évident. Enfin, je pense que les gens ne se trompent pas, quoi.
Alors, oui, mais c'est quoi l'histoire de cette inscription à la NPE ? En quoi l'inscription à la NPE témoignerait d'une bonne volonté des artistes à s'insérer ?
Bah, tout le problème, c'est de savoir, est-ce qu'un contrat d'insertion, ça prend en compte une activité artistique ? Vu comment ça se passe dans les commissions locales d'insertion, qui se déroule comme une espèce de tribunal, on voit bien que en fait l'activité artistique n'est pas considérée comme étant faisant partie d'un contrat d'insertion. Et c'est tout aussi la démarche actuelle du SNAP CGT, c'est de dire l'activité artistique doit être considérée comme un facteur d'insertion des artistes dans la société. Mais de toute façon, les artistes sont insérés dans la société, donc il y a une espèce de, je sais pas, on va dire que c'est schizophrénique comme position.
Alors Philippe Guidot, dans la lettre, vous disiez au président du Conseil Général, Philippe Guidot, artiste malheureusement au RMI. Malheureusement au RMI, non, vous ne l'êtes plus au RMI, je crois.
Incessamment sous peu, je ne suis plus au RMI, oui, j'ai reçu ma notification de refus de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un ajournement de mon contrat d'insertion pour des dossiers qui ne sont pas passés entre services en définitive. Quoi.
Et vous, Pierre-Gilles Chaussonnet, vous êtes dans quelle position par rapport au RMI ?
Moi, mon contrat d'insertion a été invalidé, non validé plutôt, depuis le mois d'avril. Donc je ne touche plus d'allocation du RMI depuis le mois d'avril. Si vous calculez, ça fait 9 mois. 9 mois où je suis obligé de vendre des biens propres, c'est-à-dire ce qui me sert dans mon environnement quotidien, comme par exemple un véhicule pour me déplacer. Et puis de toute façon, j'arrive en bout de course là, parce que j'ai plus rien à vendre, de toute manière, en dehors de mes œuvres. Mais les œuvres, ça ne s'achète pas comme ça. Et financièrement, c'est une catastrophe. Je suis dans un état de catastrophe. Voilà. Mais comme j'ai 45 ans, que je ne compte pas du tout renoncer à mon activité artistique, il n'est pas question que je m'inscrive à l'NPE dans l'immédiat. Sauf si vraiment... je crois que moi, j'ai une pierre à apporter à l'édifice de la culture, en particulier à Marseille. J'ai été 2 fois subventionné par les DRAC, une fois par la ville de Marseille. Quelque part, ça me donne un statut d'artiste officiel. Je veux dire que le RMI n'est pas une solution, ça n'a jamais été une solution. Mais il faut que le RMI soit un accompagnement. Si ce n'est pas considéré comme étant un accompagnement, à quoi ça sert ? Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'opposition claire de la part des politiques, et en particulier les politiques dans, en Bouches-du-Rhône, là-dessus, c'est évident.
Comment ça s'est passé pour vous, la suspension du RMI?
Très simplement, j'ai reçu une lettre en me disant « Monsieur travaille ». Juste écrite au manuscrit de la part du CG13, vous êtes exclu de l'allocation parce que monsieur travaille. Ça a été la seule réponse que j'ai eue. Donc j'ai fait, selon le recours normal et habituel, une demande en recours sur la justice, sur l'annonce de la fin de l'allocation. Et ça fait depuis 9 mois qu'on me balade en me demandant en double des papiers, mes revenus, mes feuilles d'impôt, etc. Ce que je fournis à chaque fois. Et on me balade de service en service. Cet été, on m'a même demandé d'envoyer les papiers dans un bureau à Marignane. Pourquoi faire Marignane? J'habite Marseille, que je sache, voilà. Comme Philippe Guido, quelque part, quand il donne des réponses, c'est 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après. Pour moi, c'est 9 mois après.
Et ce qui complique, c'est que vous avez affaire à la fois aux services culturels et aux services sociaux pour ces contrats d'insertion, ami Philippe Guido?
Alors là, c'est un peu compliqué, il y a un peu le flou artistique, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon toujours un espèce de référent qui est votre un référent qui n'est pas social, voilà, et vous avez votre référent, entre guillemets, qui est le pôle culture. Je comprends pas, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, mon référent connaissait pas, c'est moi qui lui ai fait connaître le pôle culture, et le pôle culture a appelé mon référent pour dire que voilà, effectivement, il prenait mon contrat d'insertion en compte. Et là, je reçois effectivement sous lettre non recommandée, un mois et demi après le coup de tampon, disant que j'étais plus sous contrat d'insertion. Je sais pas. Donc du coup, je sais pas. Je peux pas savoir, en fait. Pour l'instant, j'arrive pas à joindre mon référent à Pôle Culture. J'arrive pas à joindre mon référent. Il faut que je me déplace.
Comment ça se passe, une commission locale d'insertion?
On rentre dans une pièce où 5 ou 6 personnes sont là, ne se présentent pas, ouvrent un dossier. Pour moi, ça a été la première fois que j'ai été dans une commission locale d'insertion. Ça a été « Alors monsieur, vous êtes peintre, sous-entendu vous êtes peintre du dimanche ». Et je me suis défendu, puisque en fait je ne suis pas peintre du dimanche, je suis inscrit au registre du commerce, donc j'ai expliqué mon cas. Ce qui changeait la donne par rapport au fait qu'ils n'avaient pas lu le dossier, et que vraiment c'était évident qu'ils étaient là pour virer les gens. Et moi j'ai des arguments pour me défendre, mais imaginons tous les gens qui sont derrière, d'autres gens qui n'ont pas de bagage culturel, qui ne savent pas à peine parler, et qui arrivent dans ce genre de commission locale, parce que c'est le cas. Ces gens-là se font virer manu militari, quoi. C'est un vrai tribunal, un tribunal où il n'y a pas d'appel.
Alors, est-ce que les artistes qui sont dans cette situation sont nombreux? On a du mal à obtenir des chiffres. Est-ce que vous avez une idée un peu des artistes qui sont dans cette situation?
Moi, j'en connais beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de parler de leur situation. Ils ont un peu peur. C'est très simple. Je veux dire, c'est à la fois d'un côté de la pudeur d'artiste, entre guillemets, d'être au RMI. Donc, ça se dit assez moyennement. Souvent, et j'en connais qui ont perdu leur RMI parce que leur femme était assistante médicale, donc elle dépassait un peu le plafond. Donc du coup, le garçon se retrouve sans rien. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des chantiers. Ça doit les arranger beaucoup. Voilà, après j'en connais plusieurs dans des situations où quand moi je reçois ma lettre, on dit « Oh là, dans 15 jours, je reçois la mienne ». Voilà, donc je sais pas comment dire et comment faire, à part une réponse plastique comme le Salon des Bannis. Parce qu'en fait, plasticien avant tout, je réponds plastiquement.
Alors, qui sont ces bannis? C'est pas des gens qui sont bannis du RMI, c'est des gens qui sont bannis de quoi?
Non, en fait, le terme banni, c'est intéressant, c'est pour pas dire refusé. C'est un peu les en dehors de la société. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, vous verrez dans la liste des artistes, qui ne le sont pas, mais qui sont là aussi pour soutenir un peu les artistes qui le sont eux. Et un peu pour faire du poids, pour faire venir du monde, effectivement, montrer le travail des autres artistes qui le sont un peu bannis.
Mais banni de quoi ?
Bah, banni d'une certaine forme de société où, en fait, ils ont du mal à exposer, à travailler, à montrer que c'est un réel travail et que c'est pas du tout une espèce de plaisanterie du dimanche. Il y a des êtres humains qui travaillent. Enfin, moi, je sais que pour moi, je me lève à 4 heures du matin et en général, je me couche à 10 sans vraiment m'être arrêté. Donc effectivement j'ai une production conséquente, j'organise un certain nombre d'événements, je fais tourner une association et effectivement je m'en sors pas dans la vie. Et quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, que je me suis inscrit comme plasticien et que je suis ressorti, il n'y a pas à la NPE de statut d'artiste plasticien. Donc vous pouvez toujours aller à la NPE ou à la CEDIC ou machin, réclamer des droits d'artiste plasticien sortis des écoles d'art nationales. Vous pouvez toujours aller chercher, ça n'existe pas. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est la case quand vous n'avez pas des amis ou des relations ou une famille, qu'est-ce que c'est le départ? Eh ben, c'est la galère, le départ. Le départ, c'est commencer en TUC, après en CES, exploité par la société, exploité par des gens qui ont effectivement un peu de pouvoir. Et puis à la sortie, ben, vous voyez un Ben qui vous prend une idée comme ça, puis après il expose votre idée à Beaubourg. Puis après, vous retrouvez à exposer pour la ville de Marseille, pour le parc du 26e centenaire. Alors, vous demandez 1 500 euros, machin, finalement, on vous donne que 1 000. Bah, du coup, vous êtes dedans de 300. Alors, c'est votre RMI qui paye les 300, hein, faut pas se leurrer. Hein. Après, vous déplacez à Villeurbanne, vous installez la place Lazare-Goujon devant la mairie, vous faites une installation monumentale. Vous pensez gagner un peu d'argent, finalement, ben c'est le transporteur qui a gagné de l'argent. C'est pas moi. À aucun moment, ben, y a de rétribution pour le travail de l'artiste qui pourtant est exploité à tour de bras, et pour Carnaval, et pour Massalia, et pour Massilia machin. Et la Fiesta des Suds, et j'en passe, parce que la Fiesta des Suds, qui est quand même l'organe de communication du Conseil Général, qui a exploité et Pierre-Gilles et moi en tant qu'artistes plasticiens non payés pour faire la décoration de leur lieu. Maintenant qu'ils ont un peu des sous pour ce genre de budget, et ben effectivement, qui c'est qu'ils appellent? Ils appellent Ben, ils appellent Combass, et puis ils les payent, et puis c'est super. Pour l'instant, les artistes marseillais qui ont fait sortir leur événement, et ben ils sont dans la merde. Mais ça, tout le monde s'en fout, surtout Guérini, puisque c'est nous que ça plaît.
Qu'est-ce que vous allez montrer une œuvre pendant ce salon des bannis?
Oh, je vais en montrer plus d'une, puisque j'en ai déjà plusieurs d'exposés à la galerie qui est Ars Longa, qui est ouverte depuis 3 mois maintenant, encore 2 mois normalement.
Ben, qu'est-ce qu'on peut voir alors? Est-ce que vous pourriez nous parler d'une ou deux œuvres que vous montrez dans cette expo?
Alors, on pourrait voir, on pourrait y voir 16 artistes plasticiens venus d'horizons différents, déjà. Parmi mes œuvres, on peut y voir un saint en pierre de cassis qui doit faire à peu près 500 kilos, pourrait largement être un magnifique saint d'amarrage sur le port de Marseille plutôt que de vulgaire bite en fonte. J'y ai quelques personnages en métal, j'y ai quelques essais en aluminium, j'ai pas mal d'œuvres, je dois avoir une trentaine d'œuvres.
Pierre-Gilles Chaussonnet, avant que vous nous parliez de ce que vous allez montrer à la galerie Ars Longa pendant cette exposition, qu'est-ce que c'est pour vous être un artiste banni ?
Ah, mais moi je ne suis pas un artiste banni, là. J'expose régulièrement, je ne suis pas banni, c'est pas... Je suis en
Vous exposez dans cette exposition des artistes bannis.
Oui, oui, tout à fait. Moi je suis en problème d'obtention de mon allocation de RMI en attendant d'avoir une vraie expo payée. enfin financer, disons. Moi, j'ai participé à l'exposition d'Arzanga, je vais participer au Salon des Bannis, je vais exposer à la poissonnerie rue d'Andôme au mois de mai. Donc, je ne suis pas du tout un banni. J'ai mon réseau, je suis en train de faire une sculpture à la station Alexandre, qui est dans la zone franche, qui est un pôle, un futur pôle d'attrait et très important de la ville de Marseille. Donc, je suis pas du tout banni. C'est pas si simple que ça.
Donc, vous participez à cette exposition à quel titre alors ?
Ben, au titre d'amis, exactement, d'une part. D'autre part, j'aime bien les puces, puisque en fait, c'est quand même une de mes sources d'exploration et d'obtention des objets et de l'outillage pour mon travail, puisque moi, je fais des sculptures qu'on pourrait qualifier d'industrielles, donc des grosses pièces. Et donc, c'est vrai que la proximité des puces, le fait qu'il y ait Philippe Guido qui monte une galerie qui est très intéressante dans un lieu où, a priori, c'est pas destiné à avoir de l'art contemporain, mais de la brocante. Donc, un public qui n'est pas forcément un public qui est là pour voir de l'art contemporain, c'est très bien. Et donc, ce ne sont que des événements vraiment à exploiter et à intensifier, quoi. Donc, ça va dans le bon sens, tout ça.
Dernière question. On sent que le RMI, l'allocation d'insertion, ne correspond pas du tout à ce qu'est l'activité d'artiste, le travail d'artiste. Est-ce que vous imaginez quelque chose qui pourrait être intéressant comme statut à...
Oui, tout à fait. Un statut d'artiste est totalement possible. En Hollande, il y a un statut d'artiste. D'ailleurs, Ben a facilement... opéré pour ça dans le mouvement Provo, des Provo d'Amsterdam dans les années 60-70. Et effectivement, c'est un système tout à fait possible en France, où effectivement les artistes reçoivent un salaire en fonction d'une production qu'ils font, et avec effectivement obtention par l'État d'un certain nombre de leurs œuvres, et ce qui est à peu près légitime pour un artiste, c'est-à-dire un minimum de reconnaissance de son travail, même si le travail ne plaît pas foncièrement. Il a été prouvé dans l'histoire moult fois qu'un travail qui ne plaît pas à l'heure actuelle peut crever des plafonds dans des salles aux enchères demain. Et que sur ces effectivement spéculations, rien n'est ponctionné pour les artistes qui, effectivement, sont dans la galère au quotidien et contemporain. Donc, moi, ce que je propose, c'est effectivement de ponctionner sur les millions d'euros vendus pour une œuvre, que soit ponctionné un pourcentage qui soit adjoint aux artistes en devenir, ce qui me paraît légitime. Enfin...
Pierre Jules Chaussonnet, vous aussi, ce système hollandais vous satisferait ?
C'est évident. C'est quand même assez dramatique de voir qu'en France, par exemple la Festa des Suds, moi j'ai participé à 3 expositions dans le cadre de la Festa des Suds. À aucun moment donné, on m'a dit on participe à la production de l'œuvre. Alors que quand même, la Festa des Suds, ce sont des entrées payantes. Tous les artistes musiciens qui passent sur scène sont payés, quoi qu'il arrive, même s'ils ne passent pas. Ils sont défrayés, les artistes ou plasticiens, eux ne le sont pas. Et c'est un principe en France, c'est l'art doit être gratuit, et surtout pour les galeristes, ça marche pas, quoi. Ça peut pas aller. L'argent du beurre, quoi, c'est ça. Tout le problème vient de là.
Odile Bouvier, tu travailles pour ADAE 13, service Pôle Culture. Qu'est-ce que c'est ce service Pôle Culture ?
Alors le service Pôle Culture s'occupe de recevoir les artistes qui sont dans le dispositif du RMI. Nous avons une convention avec le Conseil Général pour suivre 100 artistes résidents sur Marseille et ayant signé un contrat d'insertion qui soit du domaine du spectacle vivant, des arts plastiques, de l'écriture ou par exemple aussi les médiateurs culturels sur ce type de fonction. Et nous avons aussi une convention avec la NPE depuis 2006 pour faire des objectifs projets individuels, c'est-à-dire voir si aider la personne à l'élaboration de son projet artistique.
Donc tous ces gens-là sont, bénéficient du RMI. Il y en a une centaine en tout dans le département ?
Ah non, il y en a plus de 100. Mais nous, la convention que nous avons actuellement avec le Conseil général, c'est de suivre 100 personnes qui nous sont orientées. Il y a une procédure. En fait, la personne qui est dans le dispositif du RMI, qui signe un contrat d'insertion et qui précise qu'elle a une activité artistique, le référent social envoie une fiche de liaison sur notre service et nous recevons la personne. D'abord sur une information collective où on lui explique... qu'est-ce que fait notre service, et après en entretien individuel pour voir avec elle le projet et si elle accepte de rentrer dans l'action. Voilà. Mais après, nous avons aussi par le biais de la NPE, donc ces objectifs projets, ce sont des personnes qui sont plutôt, qui perçoivent plutôt l'ASS ou qui ont des droits ouverts aux ACEDIC en tout cas. Et puis on a aussi, puisque nous avons donc cette convention avec le Conseil général, mais nous avons aussi des financements de la région et du CG aussi, mais culture. Donc nous recevons aussi des personnes qui ne sont pas du tout dans le dispositif, qui ont déjà soit démarré leur activité et pour qui nous apportons des conseils et de l'information à un moment donné.
Pourquoi ce service Pôle Culture existe ? Le RMI en général, c'est géré par les services sociaux, par des services sociaux. Pourquoi il a fallu mettre en place ce Pôle Culture ?
Alors ça date de donc au démarrage, c'est donc Monsieur Guévard, le responsable de ce service, qui en 1998, il y avait au niveau de l'insertion, il y avait énormément d'actions qui étaient d'actions de remobilisation, et il existe un réseau qui s'appelle Art et Société. Et ce sont des structures, en fait, qui se sont montées autour de la problématique de l'activité artistique. Et comment on pouvait aider ces personnes, justement, à pouvoir se professionnaliser. Donc, il y avait une volonté à cette époque-là. Aujourd'hui, au niveau du dispositif RMI, le fait qu'il y ait eu la décentralisation et que le Conseil général soit aujourd'hui le seul financeur, toutes ces actions ont plus ou moins, au niveau de la culture, ont disparu. Donc le seul service aujourd'hui qui existe au niveau de la culture, c'est le nôtre, pour pouvoir répondre à ces problématiques. Parce que ce qui se passait, c'est qu'au niveau d'une personne qui va signer un contrat d'insertion et qui explique son emploi et qui a une activité plutôt dans le domaine artistique ou culturel, le référent social n'est pas forcément formé pour pouvoir l'orienter vers des réseaux, etc., trouver la bonne action. Donc nous sommes là pour essayer justement de répondre à ça.
Quelles sont les difficultés de ce travail ?
Les difficultés de ce travail, aujourd'hui nous sommes une petite équipe et que nous sommes beaucoup sollicités parce que après les artistes parlent entre eux, donc ce qui se passe c'est que les gens ont envie d'être suivis par notre service, mais nous sommes actuellement peu nombreux pour répondre à toute la demande.
Comment ça se passe avec les artistes qui viennent vous voir ?
Ça dépend. En fait, c'est variable. Il y a des personnes... Je pense que le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trimballées de service en service. Et effectivement, quand ils arrivent à Pôle Culture, ils n'ont pas toujours eu l'information. Ou des fois, ils pensent qu'ils vont tout trouver chez nous. Et finalement, c'est un peu... ils sont un peu déçus. C'est vraiment variable. Après, c'est... nous, on est vraiment là pour donner de l'information, essayer de faire de la mise en réseau, surtout aussi, d'aider sur des outils de communication, d'avoir un appui technique et d'avoir un regard sur le projet. Et le projet, ou même, il y a des personnes qui ont déjà un projet qui est bien élaboré, donc c'est de voir quel contact on peut leur donner.
Vous arrivez souvent à convaincre les services sociaux que les artistes doivent persévérer dans cette activité, qu'ils vont se professionnaliser ?
En fait, nous, on n'est pas là pour convaincre les services sociaux. Donc, chaque année, nous devons rendre un rapport d'activité. Et à ce moment-là, il est présenté lors d'un comité de pilotage où sont réunis justement tous les lieux d'accueil. et les présidents des pôles d'insertion, ou si ce ne sont pas les présidents, les sous-directeurs des pôles d'insertion. Donc là, nous, effectivement, on est là pour défendre l'activité artistique et de dire qu'il y a des personnes qui sont dans un réel, dans de réelles démarches professionnelles et qu'il est nécessaire d'encourager dans cette voie-là. Mmh. Donc, par exemple, quelqu'un qui a eu un parcours avec une formation, qui a le DNSEP au niveau des arts plastiques, qui a fait les beaux-arts, donc qui a un parcours quand même avec une volonté d'évoluer dans ce milieu-là. Nous, on va être là pour regarder que cette personne, elle puisse continuer à avoir une activité dans ce champ-là. Après, bien sûr, il faut voir si la personne, elle a une production, si elle expose beaucoup, si elle expose pas. Enfin, il y a beaucoup de critères qui sont à prendre en compte. Donc, c'est difficile de dire comme ça que la personne, elle peut ou elle peut pas, quoi. Mmh. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours d'un artiste, ben, il est plus long que, par exemple, une secrétaire qui va rechercher un emploi. Et encore aujourd'hui, l'emploi, il est difficile pour tout le monde.
Alors, il y a quelques artistes depuis quelques mois, en fait, depuis que la gestion du RMI est passée au Conseil général. Et puis, depuis certaines déclarations de Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général, se plaignent leurs allocations RMI soient coupées ou d'être reçues dans de mauvaises conditions. Alors, deux questions là-dessus. Bon, tout à l'heure, on a entendu la lettre de Philippe Guido qui faisait des petits reproches au Pôle Culture. Donc, comme tu as eu connaissance de cette lettre, je te demanderai de dire ce que tu lui réponds. Et après, est-ce que vous avez une idée du nombre d'artistes qui étaient au RMI et qui n'y seraient plus ? Et voilà.
Donc non, on n'a pas d'idée, enfin j'ai pas d'idée sur le nombre, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que l'artiste signe le contrat d'insertion avec son référent social. À partir du moment où son contrat est ajourné, moi je ne suis pas forcément au courant, parce que moi je n'interviens pas sur la partie sociale, je n'interviens que sur la partie professionnelle. Après, je peux être au courant à partir du moment où le pôle d'insertion, lors de... comment dire, quand la personne établit son contrat d'insertion avec le référent social. Sur un moment donné, il y a l'accès emploi. Donc l'emploi, si par exemple la personne elle dit « je suis accompagnée par le service Pôle Culture », on peut me demander effectivement de fournir une synthèse de l'entretien individuel en expliquant le parcours de la personne, les projets en cours et les actions que nous allons mener avec elle. C'est ce qui est fait systématiquement. C'est-à-dire, comme je disais au départ, la personne vient sur une info collective, après elle est sur un entretien individuel. Moi, j'établis donc une fiche de synthèse et je renvoie ça au référent social avec une fiche de liaison. Voilà, en disant que la personne a intégré l'action à telle date, et soit en accompagnement professionnel, soit en aide au positionnement. Mais après, si le référent social ne m'interpelle pas ou si l'artiste ne m'interpelle pas, je ne suis pas au courant que le contrat est ajourné ou suspendu. Voilà.
Et sinon, sur ce que disait Philippe Guido, là, qu'on a entendu tout à l'heure.
Effectivement, donc en 2006, Pôle Culture a eu une petite... période de flottement, et on a eu des gens en maladie. Donc effectivement, on a eu encore le service encore plus réduit. Et puis ce qui s'est passé, c'est que nous avons aussi déménagé, et donc nous avons un peu, au niveau de l'information, à un moment donné, peut-être l'information, elle n'a pas été assez bien faite.
Professionnellement, pour les artistes plasticiens, quelles sont les erreurs à ne pas faire, justement, pour pouvoir développer leurs activités dans un cadre qui soit tout à fait correct vis-à-vis du contrat d'insertion ?
Oui, alors, par exemple, en décembre, on avait fait une réunion collective qui a été co-animée. Donc, on avait établi justement une petite fiche synthétique qui a été faite par le lieu d'accueil, l'équipe du lieu d'accueil PPIM. Et justement, où on disait aux artistes, bah, ce qui est bien, c'est que de joindre, par exemple, dans le contrat d'insertion, aussi de faire une fiche où ils mettent leurs projets en cours avec les expos récentes et leur CV, mais quelque chose où, qui soit lisible par tout le monde et qui ne soit pas forcément le book, les pôles d'insertion n'ont pas le temps de regarder, etc. Mais plus expliquer leur démarche et plus concrètement.
Philippe Guido nous disait qu'en France, il souhaiterait que soit mis en place un dispositif comme peut exister dans les pays d'Europe du Nord, un statut de l'artiste particulier, etc. Est-ce que c'est ton sentiment aussi ? C'est-à-dire que quand on a une certaine production, qu'on expose régulièrement, etc., on perçoit en fait un revenu. Est-ce que tu penses, toi, que le RMI, c'est un dispositif qui convient pour accompagner des plasticiens vers une professionnalisation, ou est-ce qu'il faut inventer autre chose ?
Effectivement, je crois qu'il y a eu aussi une proposition à un moment donné du SNAP, du syndicat, pour justement qu'il y ait une allocation de base de création. Pourquoi pas ? Pourquoi pas justement différencier effectivement une allocation spécifique pour les personnes qui sont dans le domaine artistique et culturel, pas simplement que pour les plasticiens. Je pense que c'est pour toutes les personnes qui évoluent dans le milieu artistique. Et aussi qu'elle puisse trouver, moi je pense surtout, c'est qu'elle puisse trouver de l'information pour toute leur démarche administrative. C'est ce qui manque aujourd'hui, et qu'on les envoie de service en service, qu'à un moment donné ils vont déclarer leur activité, mais ils ne savent pas toujours comment il faut faire, donc on leur donne une information, mais après ils se rendent compte que ce n'est pas la bonne. Enfin, moi je pense que c'est ça qui manque aussi. Et effectivement, pourquoi pas une allocation ? Pourquoi pas ?
C'était Odile Bouvier d'Adaï 13 Pôle Culture, et c'était une émission spéciale consacrée aux difficultés que rencontrent actuellement les artistes plasticiens percevant le RMI dans les Bouches-du-Rhône. Une émission qui s'inscrit en prolongement de la thématique Hors les Murs qui a eu lieu sur les 3-8 fin janvier 2007. Une thématique dont vous pouvez écouter l'intégralité des émissions sur le site de la Grenouille, www.grenouille888.org.